je enchaîne avec ce que nous avons vu déjà dans les séances précédentes, puisque nous avons consacré les séances précédentes, je le rappelle très brièvement, à une analyse de la pensée de Marx à partir des influences ou des réactions à l'environnement philosophique, hein, Marx et Hegel, Marx et Feuerbach. Nous avons également essayé de voir un certain nombre de concepts essentiels du marxisme qui fondent ce qu'on appelle le matérialisme historique, notamment les concepts de d'infrastructure, de superstructure, de force productive, de rapport de production. Mais tout cela, on peut dire que c'est le cadre d'analyse de la réalité sociale, le cadre dans lequel se situe et se développe la lutte des classes. Il s'agit d'en venir maintenant au problème de la lutte des classes elles-mêmes, et pas tellement aujourd'hui, d'ailleurs ce n'est pas l'objet de ce cours, d'analyser les classes, mais de voir comment se pose le problème de la conscience de classe. On partira quand même d'une définition des classes sociales. Pourquoi le problème de la conscience de classe? Il se pose parce que tout le marxisme, qui est une théorie de la révolution, une analyse de la réalité sociale et une théorie de la révolution, repose sur cette idée que il y a une classe sociale, la classe ouvrière, le prolétariat, qui est la classe, non pas peut-être révolutionnaire par essence, pas un concept marxiste, le concept d'essence, mais qui a la mission historique de révolutionner la société, de faire passer la société du stade du capitalisme au stade du socialisme. Mais pour que cette mission puisse s'accomplir, il y a une condition nécessaire qui est la prise de conscience de la situation par la classe ouvrière. La prise de conscience de la situation, la prise de conscience de sa mission et la réalisation par conséquent des moyens par la classe ouvrière de mener la lutte révolutionnaire. Donc on peut dire que le problème de la conscience de classe est au centre de la conception marxiste de la révolution. Alors comment se pose ce problème à partir de Marx? Il ne se pose pas seulement chez Marx, mais il va se poser aussi d'une façon d'ailleurs quelquefois différente chez les continuateurs de Marx, en particulier chez Lénine. Mais on va d'abord voir comment le problème se pose chez Marx. Alors j'ai dit qu'il fallait commencer peut-être par une définition de la classe chez Marx, définition que l'on ne trouve pas. Il n'y a pas, c'est à la fin du Capital que Marx voulait en venir à une analyse des classes sociales, et c'est un chapitre inachevé. Il n'y a pas de définition, d'étude exhaustive de la classe sociale chez Marx, mais il y a très souvent, malgré tout, référence au concept de classe, et on peut le définir à partir de l'analyse de Marx. Et surtout, définir le concept de classe ouvrière. De toute façon, on peut dire que les classes fondamentales, les classes antagonistes dans le mode de production capitaliste, se définissent par rapport, par leur situation, par rapport aux moyens de production. On peut définir la classe bourgeoise, capitaliste, par le fait qu'elle possède les moyens de production, et je dis bien les moyens de production, non pas seulement la propriété privée. La propriété privée n'est pas une définition suffisante de la bourgeoisie, mais la propriété privée des grands moyens de production. Voilà comment on peut définir la bourgeoisie à partir de l'analyse de Marx. Et la classe ouvrière, le prolétariat dans la formulation de Marx, deux termes sont équivalents, c'est tout à fait à l'ordre du jour d'ailleurs après la déclaration de Marchais, considère que le mot prolétariat est dépassé, bon c'est un point de vue, mais enfin, si on part en tous les cas de la conception marxiste, on définit le prolétariat et la classe ouvrière comme quelque chose d'identique, et il s'agit de la classe qui est dépossédée des moyens de production, qui n'a pas accès aux moyens, qui n'a pas la possession des moyens de production, et qui ne possède que sa force de travail. C'est ça la définition marxiste du prolétariat. C'est la classe, l'ensemble des individus, formant classe par conséquent sur le plan des structures de la société, l'ensemble des individus ne possédant que leur force de travail, c'est-à-dire la matière à exploiter par ceux qui possèdent les moyens de production, c'est-à-dire la classe bourgeoise, la classe capitaliste. Une définition simple. Après, on pourra raffiner, toute une série de sociologues vont raffiner sur la définition des classes. Mais du point de vue matérialiste, du point de vue de l'analyse matérialiste de la société, on peut dire que c'est ça les critères essentiels de définition des classes. Ça ne veut pas dire que ça ne pose pas toute une série de problèmes par la suite, ou ranger toute une série de gens dans la société qui ne se situent pas exactement parmi ceux qui possèdent les grands moyens de production et parmi ceux qui ne possèdent que leur force de travail. Alors on aura évidemment une petite bourgeoisie, classe de petits propriétaires, de petits artisans, des gens qui se situent pour d'artisans, enfin des gens qui ne se situent pas exactement dans cette classification de deux classes antagonistes, mais ce qui est important, c'est tout de même de retenir que les deux classes fondamentales sont ces deux classes-là, et puis indépendamment de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie, des petits propriétaires, des paysanneries par exemple, petites propriétaires, des artisans, des petits commerçants moyens. Il y a les intellectuels, il y a les gens des professions libérales, il y a tout ce qui s'est développé dans la production et dans la société au XIXe siècle, au XXe siècle, et qui ne pouvait pas être classé encore à cette époque. Travailleurs, des services publics et des autres services, employés, multiplication des employés, multiplication des techniciens, etc. Il y a tout un problème là pour les marxistes, comment définir la position de ces différentes catégories, de ces différents groupes sociaux, mais c'est pas dans le, ça rentre pas tellement dans le sujet d'aujourd'hui, ça pourra venir peut-être dans la discussion. Alors, quand on part de cette notion simple, de la classe ouvrière, du prolétariat, Marx dit tout de suite, il dit dès 1845, dans Misère de la philosophie, que la classe ouvrière est d'abord une classe, là je cite, une classe vis-à-vis du capital n'est pas encore pour elle-même. Une classe vis-à-vis du capital, c'est ce qu'il appelle encore la classe en soi, et pas encore pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore la classe pour soi. C'est deux termes philosophiques. D'ailleurs, si vous voulez qu'elle ait une classe de façon objective, mais elle n'est pas encore une classe de façon subjective. Ce qui lui manque, c'est précisément la conscience d'être une classe. Elle sera la classe pour soi quand elle aura conscience d'être une classe et d'être la classe ouvrière. Quelle est la situation de la classe quand elle est encore classe en soi? Elle est pur objet du processus économique. Elle est matière à exploiter, force de travail sur le marché du travail, marchandise. Elle est faite d'individus qui, bien qu'ils aient le même sort de matière à exploiter, n'ont pas encore conscience d'avoir les mêmes intérêts. D'individus qui sont en concurrence, qui apparemment sont en concurrence les uns avec les autres. Les uns gagnant un peu plus, les autres un peu moins. Les uns chômeurs, les autres ayant du travail. Semble donc que du point de vue immédiat, il y ait des oppositions, une concurrence, et pas encore une solidarité. Cela vient de la situation objective de la classe ouvrière dans la mesure où elle n'est pas encore, ou enfin où elle est encore, une classe vis-à-vis du capital et pas vis-à-vis d'elle-même. Mais il y a d'autres raisons à cette situation, des raisons d'ailleurs qui sont liées à celle-là, c'est que les ouvriers sont soumis à l'idéologie dominante. Et c'est bien la raison pour laquelle ils ne se perçoivent pas comme une classe, parce que l'idéologie dominante ne comporte pas la division en classe, elle ne comporte pas le concept de classe. Du point de vue de l'idéologie dominante, ils sont soumis à des valeurs, ils acceptent un certain nombre de valeurs qui sont celles de l'idéologie dominante et qui précisément les opposeront les uns aux autres et assureront l'ordre de la bourgeoisie. Par exemple, la valeur du travail. La moralité du travail, de l'obligation du travail comme considéré comme une espèce de vertu, donc de la soumission à la discipline du travail, de la soumission à la hiérarchie, de la reconnaissance à l'égard de ceux qui donnent le travail, de toute une série de valeurs qui fondent en quelque sorte l'ordre de l'exploitation, l'ordre de la bourgeoisie. Soumission économique, bien sûr, puisque leur sort dépend étroitement du capital. Soumission idéologique, soumission politique. Tout l'appareil d'État, toute la structure politique de la société pèse sur eux et ils ne se perçoivent pas comme ayant des intérêts distincts et une conception différente de ce que peut être l'État et de ce que peut être l'avenir de la société et leur propre avenir. Si on va plus loin, cette situation économique, idéologique, politique de la classe ouvrière au stade de la classe en soi s'explique aussi par la forme même du travail, la division du travail. Ils n'ont pas, comme pouvait l'avoir encore l'artisan, le paysan, la perception d'un travail personnel, d'une participation personnelle à la production, mais leur participation est parcellisée, alors c'est ce que Marx explique très bien dans l'idéologie allemande et dans le Capital, ils ne sont qu'un rouage, ils n'ont pas une vue d'ensemble de l'économie, de leur rôle, de leur place dans la production. Ils sont, en effet, comme des rouages, pratiquement comme des choses. Les rapports humains ne sont pas des rapports véritablement humains. Dans les rapports entre les hommes ne sont pas des rapports véritablement humains, ce sont des rapports d'objets, de sujet à objet, le sujet étant le patronat et l'objet étant l'ouvrier. Ce sont des rapports qu'on Marx appelle et que Lukács précisera encore par le terme de réifier. Il y a une réification des rapports humains. Le mot réifier veut dire simplement transformer en chose. Alors comment de cette situation originelle, à partir de cette situation originelle, parvient-on à un prolétariat qui ait conscience de soi, c'est-à-dire devienne une classe consciente de sa situation au sein du système, consciente d'une solidarité, d'une unité de l'ensemble de la classe, conscience d'une identité de ses intérêts actuels et de son avenir. C'est-à-dire comment la classe ouvrière peut-elle échapper à la domination idéologique de la bourgeoisie et lutter pour ses propres fins, pour son propre destin? Marx répond à cette question par le développement de sa pratique historique de lutte, c'est-à-dire par ce qu'il appelle la praxis révolutionnaire, c'est-à-dire l'ensemble de l'expérience sociale révolutionnaire, de l'expérience sociale de lutte de la classe ouvrière. Et il explique, notamment dans le Manifeste communiste, comment les ouvriers sont amenés à lutter d'abord au niveau élémentaire pour le prix de la force de travail, c'est-à-dire pour améliorer la valeur marchande de leur propre force de travail, les salaires, les conditions de travail. Mais au cours de cette lutte, qui est une lutte qu'on appelle économique, si on veut, au cours de cette lutte économique, la classe ouvrière rencontre l'appareil d'État et elle parvient, au cours de cette rencontre, à une conscience politique, ce
que ce sont des problèmes politiques qui sont posés, problème de l'État, de sa répression, de l'alliance entre l'État et le capital, et par conséquent se forme au travers d'un processus prolongé de lutte une conscience qu'on peut appeler une conscience socialiste ou une conscience communiste, la conscience de la nécessité, de la possibilité pour le prolétariat de prendre en main son sort, de transformer la société, de conquérir lui-même le pouvoir. Et ce qui est important, c'est que, important de noter, c'est que pour Marx, ce processus se fait en quelque sorte de lui-même. Je ne veux pas dire par là qu'il est fatal et qu'il est automatique, mais il surgit des luttes de la classe ouvrière. Et pour Marx, la situation même du capitalisme, le développement même du capitalisme, porte en lui la création de la conscience de classe dans la classe ouvrière. La classe ouvrière ne peut pas ne pas être amenée à lutter. D'abord parce qu'il a une vision, je ne dirais pas catastrophiste, mais dans sa vision du développement du capital, il y a cette certitude qu'il y aura une concentration de plus en plus forte de la classe ouvrière, ce qui est un élément de sa mobilisation, qu'il y aura donc une diminution numérique, si on veut, de la classe capitaliste, espèce de formation de monopole, et que pareil, en même temps, il y aura une tendance du capital à accumuler les profits à un pôle et la misère à l'autre pôle. On est dans la théorie de la paupérisation, c'est Marx en plein. Et que cette situation est explosive, d'autant plus que le capitalisme ne peut pas se développer sans crise, qui accroît encore la misère de la classe ouvrière. Et chaque phase de crise, déjà, on a déjà cette idée chez Marx, mais sera reprise encore davantage chez Rosa Luxembourg, chaque phase de crise, dans la crise, le capitaliste se critique lui-même. La réalité se critique elle-même. Chaque phase de crise accroît la conscience de classe de la classe ouvrière, son potentiel révolutionnaire. Du point de vue de l'organisation, parce que bien sûr il y a une organisation nécessaire, Marx ne le nie pas, mais pour lui l'organisation naît en quelque sorte naturellement, je ne dirais pas spontanément, mais naturellement du développement de la pratique de lutte de la classe ouvrière. C'est d'abord l'organisation syndicale, puis l'organisation politique, le parti autonome de classe. Il insiste dans le manifeste sur la nécessité pour la classe ouvrière de constituer son parti autonome de classe. Mais pour lui, c'est un processus en quelque sorte naturel. J'insiste sur le point que c'est la classe ouvrière elle-même qui constitue son parti autonome, ou ses partis, puisqu'il admettrait bien qu'il y ait plusieurs partis ouvriers. Alors, le rôle des communistes, c'est-à-dire le rôle des disciples de Marx, des marxistes, qu'il appelle les communistes, ceux qui perçoivent l'avenir communiste de la société, le rôle des communistes n'est pas du tout de former un parti à part, un parti au sens où on l'entend aujourd'hui, pour Marx. Il dit dans le manifeste que les communistes ne se distinguent pas des autres partis ouvriers, ou ils s'en distinguent seulement par la conscience plus claire qu'ils ont des buts et de l'intérêt, des intérêts d'ensemble du mouvement. C'est-à-dire qu'ils sont essentiellement des éducateurs, on pourrait dire des théoriciens et des éducateurs de la classe, à travers les partis existants. En somme, pour Marx, il se forme naturellement des partis révolutionnaires, des syndicats bien sûr, mais aussi des partis politiques, des partis révolutionnaires. Et il faut apporter dans ces partis mêmes une éducation communiste, une éducation théorique, qui développe les possibilités révolutionnaire de la classe. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs Marx insiste sur le fait que l'émancipation de la classe ouvrière, l'émancipation des travailleurs, sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Les partis, et Engels sera du même avis, même au moment où se forme le Parti social-démocrate en Allemagne, qui devient un grand parti ouvrier, pour Engels, le parti est une constitution, en somme, de la classe qui prend conscience de ses intérêts de classe, de ses intérêts politiques, et il ne devrait pas y avoir de limite. Il envisage des partis de masse, des partis immenses. Pour lui, finalement, on peut dire que tous ceux qui votent pour le Parti socialiste, pour le Parti social-démocrate en Allemagne, devraient être membres du parti. Il ne fait pas une distinction entre électeurs et membres du parti. L'idéal, ce serait de rassembler dans un grand parti de masse l'ensemble de la classe ouvrière, tous ceux qui ont une conscience socialiste, des convictions socialistes, une volonté socialiste. Bien, passons maintenant à d'autres conceptions de la conscience de classe. Il faut s'arrêter un peu sur Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg ne se distingue pas fondamentalement de Marx dans ce domaine. Elle continue la pensée de Marx, mais elle la précise en réaction au courant réformiste qui s'est développé dans le Parti social-démocrate allemand à partir de Bernstein, premier théoricien du réformisme, du révisionnisme, comme on dit à cette époque, et Bernstein, qui ne voit plus l'objectif révolutionnaire indépendamment du mouvement. Il n'y a plus de but, il dit, c'est le mouvement lui-même. C'est-à-dire que le Parti social-démocrate doit occuper électoralement le plus de places possible, doit obtenir le plus de réformes possible par sa force, son influence, et c'est cela la lutte pour le socialisme. On avancera petit à petit vers le socialisme à travers toute une série de gains hein, de conquête partielle du parti social-démocrate. Cela se fonde sur une série de critiques à l'égard des théories marxistes, de certaines prévisions de Marx qui n'ont pas été vérifiées dans l'immédiat. Par exemple, la paupérisation de la classe ouvrière. C'est évident qu'on n'est pas allé vers un accroissement de la misère de la classe ouvrière au sens où Marx le prévoyait. Et Bernstein en profite dans sa critique pour dire, bon, ben, Marx s'est trompé dans ses perspectives. La perspective était catastrophique. Et en fait, le capitalisme évolue d'une façon différente et il peut se réformer. On peut passer au socialisme d'une autre façon que celle que Marx prévoyait. Ce qui amène évidemment une conception de l'organisation qui est tout à fait différente. L'organisation a des buts concrets, pratiques, l'organisation qui conquiert le terrain, qui occupe le terrain. Finalement, c'est la pratique des partis socialistes, comme on les connaît. Enfin, ils sont tous bernsteiniens, en définitive. Bien que les discours soient quelquefois différents, enfin, dans la pratique, enfin, c'est le bernsteinisme qui l'emporte. Alors, Rosa Luxembourg, en réaction contre cela, accuse Bernstein et ses disciples d'étouffer la conscience de classe. Justement, le réformisme peut relayer en quelque sorte l'idéologie bourgeoise dans la classe ouvrière et combattre le développement de la conscience de classe, s'opposer à son développement. Alors, comment va se naître, va surgir et se développer la conscience de classe pour Rosa Luxembourg? Eh bien, elle reprend un peu l'idée de Marx, mais elle la précise, c'est dans la dialectique des luttes. Et pour elle, il y a les périodes de tension sociale, les périodes de crise du capitalisme et Rosa Luxembourg maintient avec force la théorie des crises que Bernstein avait estompée. Elle a une vision même assez catastrophique du développement du capitalisme et au cours de ces crises la conscience de classe fait des progrès de géant, fait des bonds de géant. On commence par des grèves économiques qui peuvent être partielles, mais on se sert de ces grèves partielles pour aller plus loin, arriver jusqu'à ce qu'elle appelle la grève de masse, hein, ou la grève en masse. Et on traverse la lutte économique pour aller jusqu'à la lutte politique. La lutte politique permet de développer la lutte économique qui permet d'aller plus loin encore dans la lutte politique. Il y a toute une dialectique des luttes. Et il y a une auto-éducation du prolétariat dans la crise à travers cette expérience des luttes. Alors on a beaucoup parlé du spontanéisme de Rosa Luxembourg. C'est un spontanéisme relatif. Pas plus que Marx, elle ne croit à la spontanéité révolutionnaire de la classe ouvrière. Chez Marx, on voit bien qu'il y a toute une phase où la classe ouvrière n'est pas révolutionnaire. Elle est une classe en soi et pas encore pour soi. Rosa Luxembourg aussi attend que certaines périodes, la maturation de la conscience de classe. Le rôle du parti, c'est un rôle aussi d'éducateur, c'est essentiellement un rôle d'éducateur, rendre le prolétariat conscient des implications politiques de son action, le préparer idéologiquement à la crise révolutionnaire, Mais on trouve chez Rosa Luxembourg la même confiance, en quelque sorte, que chez Marx, dans une maturation organique de la conscience de classe. Le parti n'étant pas, le parti étant le résultat de cette maturation, mais n'étant pas le préalable à cette maturation. Dans le résultat, il y a un élément, si vous voulez, dans cette maturation, mais non pas le préalable et la condition sine qua non, la condition indispensable à cette maturation de la conscience de classe. Au contraire, chez Lénine, avec Lénine, nous avons une conception qui alors est vraiment différente. Pour Lénine, le mouvement ouvrier ne parvient pas, et ceci, quelles que soient les circonstances, crise ou pas crise, ne parvient pas spontanément, organiquement, en quelque sorte, à la conscience révolutionnaire, mais seulement à la conscience que Lénine appelle tradunioniste, c'est-à-dire à une conscience syndicale élémentaire, comme chez les trade unions anglais. Alors là, il y a quand même un passage qu'il faut lire, parce qu'il est très net. C'est dans Que faire ? L'histoire de tous les pays atteste que par ses seules forces, la classe ouvrière ne peut arriver qu'à la conscience tradunioniste, c'est-à-dire à la conviction qu'il faut s'unir en syndicat, se battre contre les patrons, réclamer du gouvernement telle loi nécessaire aux ouvriers, etc. Quant à la doctrine socialiste, elle est née des théories philosophiques. Alors regardez, faites bien attention à ça. Quant à la doctrine socialiste, elle est née des théories philosophiques, historiques, économiques, élaborées par les représentants cultivés des classes possédantes, par les intellectuels. Les fondateurs du socialisme scientifique contemporain, Marx et Engels, étaient eux-mêmes, par leur situation sociale, des intellectuels bourgeois. De même en Russie, la doctrine social-démocrate surgit d'une façon tout à fait indépendante de la croissance spontanée du mouvement ouvrier, comme le résultat naturel et inéluctable de développement de la pensée chez les intellectuels révolutionnaires socialistes. Voilà qui est extrêmement important, qui marque une étape. C'est l'idée qu'on ne parvient, le prolétariat ne peut parvenir de lui-même à la conscience socialiste, à la conscience communiste, à la conscience de classe au sens plein du mot, mais qu'il a besoin d'une espèce d'injection de théorie philosophique, économique, historique, etc., venant de ceux qui savent. Et ceux qui savent ne peuvent pas venir de la classe ouvrière à cause de la situation même de la classe ouvrière, non pas parce qu'elle serait impuissante congénitalement, mais de par sa situation de classe exploitée, de classe idéologiquement dominée, politiquement dominée, elle ne peut pas faire surgir de son propre sein la théorie. Et sans la théorie, sans théorie révolutionnaire, dira Lénine, pas d'action révolutionnaire, sans la théorie, il n'y a pas vraiment formation d'une conscience de classe, sauf une conscience syndicale, syndicale élémentaire, la conscience tradunioniste. Or, cette théorie, elle vient des intellectuels, de ceux qui ont pu assimiler la science, la connaissance. Évidemment, pas n'importe quels intellectuels. Lénine dit les intellectuels révolutionnaires, c'est-à-dire les intellectuels qui ont rompu idéologiquement avec la classe bourgeoise, et qui apporte de l'extérieur au mouvement ouvrier la connaissance. Connaissance de sa mission historique, de son rôle historique. Alors ne prenons pas non plus ce que dit Lénine d'une façon trop simpliste. Lénine reconnaît que le mouvement ouvrier est quand même l'élément fondamental de tout mouvement révolutionnaire. Ce n'est pas les intellectuels qui sont l'élément fondamental du mouvement révolutionnaire, c'est le mouvement ouvrier, c'est la classe ouvrière. C'est dans la fusion entre les intellectuels révolutionnaires, c'est-à-dire la fusion, dit-il, de la théorie socialiste apportée par les intellectuels révolutionnaires et l'avant-garde révolutionnaire, que surgit alors le parti, que peut se construire le parti. Alors le parti devient l'élément essentiel de la classe ouvrière, de la prise de conscience de la classe ouvrière. Sans parti révolutionnaire, la classe ouvrière ne pourra jamais aller jusqu'au bout de sa conscience et par conséquent de sa lutte. Alors la classe ouvrière, contrairement à ce que pensait Marx, ne produit pas naturellement le parti révolutionnaire. Parce que, pour les mêmes raisons, les ouvriers sont privés des moyens théoriques de comprendre la société. Ils peuvent évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils seront forcément des réformistes. Ils peuvent être des révoltés. Ils peuvent même aller jusqu'à des insurrections. Tout le 19e siècle en porte témoignage, toute une série d'insurrections, mais ces insurrections elles-mêmes, plus ou moins spontanées, ne sont pas encore des mouvements révolutionnaires, au sens propre du mot, c'est-à-dire ne sont pas capables de dépasser la société, de la renverser et de construire une autre société. Donc il faut à la fois, bien sûr, le mouvement ouvrier et son développement, mais il faut le rôle du parti, et pour le construire, il faut cette fusion entre ce qu'il appelle des chefs naturels du mouvement ouvrier, c'est-à-dire les lutteurs, les syndicalistes de premier plan, les chefs naturels du mouvement ouvrier et les intellectuels révolutionnaires pour construire ainsi une avant-garde politique. Alors, le résultat, la conséquence, c'est que Lénine ne conçoit pas la possibilité d'une révolution sans le développement du parti révolutionnaire construit de cette façon, sans le travail du parti révolutionnaire. Le parti a un triple rôle. Un rôle d'élaboration politique, c'est lui en quelque sorte qui doit donner l'analyse des situations, les mots d'ordre, dessiner les grandes lignes de l'action à mener, un rôle de pédagogie politique, elle doit expliquer à la classe ouvrière et autour de la classe ouvrière les éléments d'une situation, former la conscience révolutionnaire, et un rôle d'organisation. Organiser les détachements de la classe ouvrière, donc un rôle d'élaboration, un rôle de pédagogie, un rôle d'organisation. L'organisation, ce n'est pas simplement le parti lui-même, c'est aussi bien les syndicats que les organisations de masse les plus diverses. Tout cela doit être vu par le parti, l'ensemble du parti.